Louez le Seigneur. Est-ce qu'on est déjà en ligne? Oui. Louez le Seigneur, merveilleux. C'est beau d'avoir ce temps ensemble, même si c'est encore un peu sous restriction. Nous avons tous besoin de cette communion. Nous avons besoin d'entendre le Seigneur qui nous parle. Il a des choses très précises, très particulières à nous transmettre. Relisons ce verset dans Apocalypse 22:1. C'est une scène du dernier livre de la Bible, du dernier chapitre. Peut-être tous ceux qui sont à Stuttgart peuvent lire ensemble ce verset de Apocalypse 22:1. Amen. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville. Encore une fois, ceux de Karlsruhe. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville. Seigneur, nous voulons voir ce fleuve, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône. Amen. Lisons encore le psaume 16:11. Psaume 16, verset 11. Tous ensemble. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Encore une fois, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Ensuite, Jean 7, 37 à 39. Peut-être l'église à Bonn pourrait lire ces versets. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen.
Amen.
Lisons maintenant Jean 1, verset 4, tous ensemble. Jean 1, 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Amen.
Jean chapitre 10, verset 10, un verset très connu. Réjouissons-nous de ces versets. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Nous voulons avoir la vie en abondance. Amen. 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 La vie en abondance. Philippiens, chapitre 1, verset 21. Philippiens 1, 21. Amen. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Amen. Amen. Pour moi, vivre, c'est... Amen. Vivre, c'est Christ. Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Il est important de voir cela. Dieu est un Dieu de vie. Quand nous avons affaire à Dieu, les gens ont tout de suite des concepts, des idées. Dieu est celui qui dirige tout, qui décide tout, qui nous exige des choses, qui est exigeant envers nous. On a beaucoup de concepts religieux. Dieu voudrait nous rendre comme ci ou comme ça. Mais ce Dieu est tout différent de ça. En tout cas, j'ai appris à le connaître différemment. Et beaucoup d'entre nous, nous le connaissons différemment. Il est le Dieu de la vie. Combien de scientifiques, combien de chercheurs ont cherché dans l'univers où y a-t-il encore de la vie? Même la vie n'est peut-être pas là, mais où est-ce que la vie pourrait encore se trouver ou aurait été existante un jour? Et comment est-ce que la vie est venue en existence à l'époque? Il y a tant de chercheurs qui sont occupés avec ça. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit, des choses se sont passées, et tout d'un coup, on a eu une cellule, et à partir de là, tout a démarré. Non, frères et sœurs, cette terre, cette création que nous avons autour de nous, ce n'est pas juste quelque chose qui est arrivé par hasard, quelque chose qui s'est développé comme ça. Non. Quand il y a une explosion, par exemple, il n'y a pas tant de choses positives qui sortent de cette explosion. Regarde ces bombes qui tombent en Ukraine. Tu crois que ça produit quelque chose de bon? Absolument pas. C'est un chaos. Mais Dieu est un Dieu de vie. Il est la vie. Et ce qu'il produit, ce qu'il crée, il n'y a que lui qui peut le faire. La vie, c'est lui qui l'a produite. Sur notre terre, il y a la vie, c'est un miracle, parce que Dieu est vivant, il existe. Et ça, ça doit déjà nous émerveiller. Rien que de penser à ça, ça doit nous réjouir. Tu peux regarder avec le microscope les choses les plus petites, les choses les plus insignifiantes, dans tout ce qui est du domaine de la plante ou de l'animal. Tu regardes ça, tu te dis, mais c'est incroyable. Tout est si fin, tout est si petit, si minutieux, si parfait. C'est pas n'importe quoi. La vie, c'est la vie intrinsèque même de Dieu. Au début de l'Écriture, on voit que toutes ces choses sont créées. La lumière, tout au début, puis les étoiles, le soleil, la lune, toutes ces choses, tous les luminaires qui déterminent aussi les temps. Ensuite, toutes ces plantes qui ont grandi, les animaux sur la terre, les poissons dans l'eau et tout ce qui est en dessus dans les airs, les oiseaux, tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et cette terre est pleine de vie. Et ensuite, Dieu crée encore quelque chose de merveilleux. Toute cette création est magnifique. Et ensuite, il dit, maintenant, faisons l'homme. Mais qui parle avec qui, là? Faisons. Mais Dieu a un plan, là. Ce plan a beaucoup à faire avec l'homme. Parce que la création n'était pas dans une condition excellente. À un moment donné, dans l'histoire, il y a eu un chaos, il y a eu une chute. Il y a eu un ange déchu, un ange qui a dominé la terre. Et c'est pourquoi Dieu a dû juger et il a commencé à créer quelque chose de nouveau. Il a créé une nouvelle terre. Et là, sur cette terre-là, l'homme est au centre. Et il place l'homme au milieu d'un jardin, dans un beau jardin. Il a formé l'homme. Il ne l'a pas juste créé, il l'a formé. Il ne l'a pas formé n'importe comment, mais à son image. Donc, il l'a formé, cet homme, qui ressemble à Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Dieu est invisible, mais il a formé un être qui lui ressemble. C'est étonnant. C'est donc que Dieu voudrait que sur la terre, quelqu'un représente Dieu sur la terre. Quelqu'un qui a une essence, une vie qui ressemble à Dieu, qui est comme Dieu, qui arrive à sentir comme Dieu, qui a de la sagesse. Et qui peut agir pour Dieu sur la terre, qui peut même gérer la terre, régner sur la terre, non pas comme un officier de l'armée, mais régner comme Dieu le veut. Et cet homme, il est placé devant un choix. Nous avons besoin de nous décider. Nous devons toujours à nouveau nous replacer devant ce choix. Un jour dans ma vie, je me suis décidé pour Jésus, de façon très précise, très claire. C'était une décision de ma part. J'aurais pu dire non, ça ne m'intéresse pas, ou j'aurais pu dire ok, je m'en vais, ça ne me plaît pas. Mais ce jeune homme qui me parlait et qui me posait la question, est-ce que je voudrais connaître Jésus? J'ai hésité un moment. Et ensuite, eh bien, on a prié ensemble. Il a prié avec moi. Et cette hésitation, c'était mon salut. Et je suis très reconnaissant encore aujourd'hui. Et j'ai aussi prié. Parce qu'il m'a dit, toi, maintenant, tu vas aussi prier. Et du coup, j'ai accueilli Jésus dans ma vie de façon très consciente. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'ai pris cette décision. J'ai pas douté, j'ai pas posé des questions après, mais non, j'ai décidé. Et j'ai été confirmé dans ce choix chaque fois, à chaque pas que j'ai fait. Et tous les jours, nous devons prendre cette décision. Quelle décision? C'est aussi aujourd'hui très important. Prenons-nous la décision de tout faire juste? Est-ce que nous prenons la décision de ne pas faire de faute? Est-ce que je décide ce qui est bien, ce qui est mal? De tout connaître, par exemple, aussi? Ou de juger, de pouvoir discerner les choses? En réalité, il s'agit d'une décision qui est contradictoire à nous, où on se dit mais on est simpliste. Ça nous place dans un petit coin. On est devant ces deux arbres là. On est devant ces arbres. Je ne sais pas quelle est leur forme, peu importe. Ils étaient les deux dans le jardin d'Éden, ça c'est une certitude. Il y avait deux arbres là qui avaient une connotation particulière. Dieu les a placés là de façon tout à fait volontaire. Et puis il les a nommés, il a dit ça, ici c'est l'arbre de la vie.
Wer von denen
celui qui mange de cet arbre, il a la vie éternelle. Adam a été créé, il est devenu une âme vivante, il n'avait pas encore reçu la vie de Dieu. C'est une chose d'être né sur la terre, tu es vivant, un nouveau-né, il est vivant, il crie, il pleure, il mange, il boit, il bouge. Mais pour nous, il est aussi important de recevoir la vie éternelle, la vie divine. Sinon, nous ne sommes pas complets. Peut-être tu n'exprimes pas Dieu. Si tu n'as pas cette vie, tu ne l'exprimes pas. Cet arbre, c'est l'arbre de la vie. Nous avons vu cet arbre dans Apocalypse 22 et nous le voyons régulièrement au travers de la Bible. Et puis, à côté de cet arbre, il y a un autre arbre qui a un nom très compliqué. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Peu importe où tu regardes, où il y a des problèmes. Même entre nous, chrétiens, dans l'Église, cet arbre est toujours en jeu, dans le jeu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça sonne tellement spirituel. Ça semble spirituel. La connaissance. Qui ne veut pas connaître? Nous voulons tous connaître. Nous voulons tout savoir. Nous voulons tout pouvoir juger. Connaître le bon et le mal. Le bien et le mal. Je ne peux pas écrire tous les mots parce que ce nom est tellement long, tellement compliqué. Alors je raccourcis. Connaissance, bien, mal. Tu peux le rendre très simple. En réalité, c'est l'arbre de la mort. Il y a donc un arbre de vie et un arbre de mort. Et tu peux décider. L'homme, l'être humain, est toujours placé devant ce choix. Que veux-tu ? Malheureusement, l'homme a choisi l'arbre de la mort à un moment donné. Et c'est l'arbre par lequel le péché entre dans l'homme, par lequel ce qui est corrompu entre en nous et qui nous corrompt devant Dieu. Même si nous aimerions bien connaître et faire les choses de façon juste, non, Dieu a un autre principe que ça. Nous ne devons pas toujours regarder est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des erreurs. Non. Le Seigneur veut qu'on se nourrisse de l'arbre de la vie. Nous allons revenir là-dessus. Dans Apocalypse, au chapitre 2, il est aussi mentionné. Je voudrais juste mentionner ce verset. C'est par rapport à la lettre à l'église à Éphèse. Là, il appelle à la repentance. Se repentir. De quoi se repentir? De quel péché se repentir? De quoi est-il question ici? Ils n'ont pas péché grièvement, pas autant que les Corinthiens, par exemple. En tout cas, il n'est pas mentionné cela. Il y a aussi des bonnes choses. Combien vous êtes bons? Même pas méchants. Même pas mal. Vous êtes des bons chrétiens. Vous avez tellement de bonnes choses à montrer, à démontrer. Et ensuite, il dit, « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Au verset 4. Ce Jésus qui est le bon berger, mais ce Christ aussi qui brûle, qui brille, et qui juge dans les églises les œuvres. Il vous manque quelque chose. Il vous manque en fait ce qui est de plus important, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Et celui qui se repent, qui se tourne et qui revient, à lui, il donnera à manger de l'arbre de la vie. Amen. Il y a toujours une récompense quand tu te repens. tu peux manger alors de l'arbre de la vie. Au verset 7. Souviens-toi d'où tu es tombé. Est-il dit. Souvent, je me suis posé la question. Mais de quoi? D'où suis-je tombé? Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Il n'a pas dit retourne à ton premier amour. Non, il a dit pratique tes premières œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres. Mais reviens à tes premières œuvres. Nous avons ce privilège. Et c'est très vivant pour nous à Karlsruhe. Nous venons de lire Actes des Apôtres où Paul était à Éphèse. Et tout ce qui s'est passé à Éphèse, c'était les premières œuvres. Dieu agissait. Il a puissamment œuvré par l'Évangile. Plusieurs se sont réunis avec Paul. Beaucoup de disciples ont été présents. Ils étaient dans une école et ils se préoccupaient de la parole. Et ensuite, ils ont proclamé cette parole dans toute l'Asie pour prêcher l'Évangile. C'était les premières œuvres. Ensuite, il y a eu beaucoup de situations tumultueuses. On ne peut pas simplement prendre avec soi le christianisme comme une chose secondaire. Non, il y avait des gens qui chassaient les démons. Sept d'un coup, par exemple. Et leur travail consistait à chasser des démons. Ensuite, ils ont eu un cas très difficile. Et ils ont dit, ok, maintenant, on va essayer avec le nom de Jésus. Ce nom que Paul utilise. Et puis, ces gens, ils se sont dit, ben voilà, on va prendre ce bagage de chasser les démons et puis on va s'exercer, on va faire la même chose que Paul. Ce Paul qui arrive à chasser les démons. Et les démons, ils ont simplement répondu, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous êtes qui? C'est pourquoi ne prends pas juste les choses qui appartiennent à la vie chrétienne. Et tu ne peux pas juste les appliquer comme bon te semble. Soit tu vis avec le Seigneur et tu te donnes au Seigneur et tu es un avec lui, alors tu peux aller, mais faire semblant, avoir une influence juste chrétienne, extérieure, ou bien j'ai mes plans pour ma vie, mais bon, de temps en temps je vais à la réunion, de temps en temps je fais un petit effort spirituel. Non, cela c'est pas connaître Dieu. Ça ne va pas servir le Seigneur. Et ce qui se passe à Éphèse à ce moment-là, c'était une terreur complète qui est venue sur tous les hommes. Et l'Évangile avait une grande puissance parmi les hommes à ce moment. On peut prendre dans Actes 19. Il y a eu des hommes qui sont venus donc d'eux-mêmes. Peut-être ils étaient déjà chrétiens. Ils ont agi par eux-mêmes. Ils n'ont pas juste confessé leurs péchés, mais ils ont confessé ouvertement tout ce qu'ils ont fait de grave. Toutes ces choses qui étaient contre Dieu, ils ont confessé. Ils faisaient de la magie. Ils étudiaient ces livres de magie et ils les ont ensuite brûlés. Ils se sont dégagés de toutes ces choses mauvaises. Ça, c'était vraiment tirer un trait sur tout leur passé. Ils ont brûlé tout ce qui faisait partie de leur ancienne vie. Et ça, ça montre aussi combien l'Évangile est puissant. Et ça, c'était les premières œuvres. Je prends ça ou ça et je fais un compromis ici et là. Non, ça, ça ne va pas. Maintenant, pour nous, chrétiens, ici, en ce temps même, maintenant, on est à Pâques. Pâques est un mot païen. Ça vient d'une divinité, Ostera. C'est une divinité que nous ne connaissons pas. Elle n'a rien à faire avec nous. C'est la Pâque juive, en réalité. Et pour nous croyants, nous pouvons vraiment le fêter chaque année. C'est la fête de la mort et de la résurrection. Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est une fête de vie. Le Seigneur a vaincu la mort. Mais nous n'avons pas besoin de pratiques extérieures par rapport à ça. Et de toute façon, pas des lapins ou des œufs. Nous sommes toujours prêts à faire des compromis, de donner un petit quelque chose au diable. Nous avons besoin d'être vraiment au clair, d'être entiers pour le Seigneur. Dans Apocalypse 2, 7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, ça implique qu'on fasse nos premières œuvres. Est-ce que tu n'as pas la joie de prêcher l'Évangile? Tous ceux qui prêchent l'Évangile sont pleins de joie. Nous n'avons pas tellement de problèmes. Même s'il y a des problèmes, eh bien, ils ne sont pas tellement importants pour ces personnes-là. Parce qu'ils se consacrent à quelque chose pour laquelle ils vivent. Et nous sommes vraiment poussés à le faire. C'est un salut pour nous. C'est un fleuve d'eau vive qui va couler en nous et au travers de nous. Dans Genèse, nous ne voyons pas juste cet arbre de vie, mais nous voyons aussi le fleuve d'eau de la vie. Il y a un fleuve qui coule depuis l'Éden. C'est l'origine. Ce fleuve commence en Éden et ensuite il atteint diverses régions par plusieurs bras. Mais ce fleuve, il a des particularités. Il y a un fleuve. On trouve de l'or dans ce fleuve. Et la Nouvelle Jérusalem, de quoi est-elle constituée? Eh bien, d'or pur. D'où vient cet or? D'où vient l'or dans l'Église? La présence de Dieu, la vie même de Dieu qui est œuvrée en toi, d'où ça vient? Ça vient du fait que tu te réjouis du fleuve d'eau de la vie, parce que tu laisses le Seigneur opérer en toi et tu le laisses couler en toi. Et tu deviens de l'or. C'est quelque chose de tellement précieux. Il y a des choses si précieuses. Il te donne des choses qui demeurent jusque dans l'éternité. L'Église est bâtie avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Pas de bois, de foin et de chaume. Là, on trouve de l'or. Amen. Donc le fleuve, il inonde tout le jardin. Le nom du premier est Pichon, c'est chapitre 2, Genèse 2, 11. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième, c'est l'Euphrate. Donc, ces bras du fleuve transportent les matériaux si précieux avec eux. Si le Seigneur veut faire de toi une pierre précieuse, alors tu dois être dans le fleuve. Un fleuve d'eau de la vie. Ce fleuve traverse toute la Bible. Nous le voyons dans Apocalypse, nous voyons l'accomplissement. Nous ne voyons plus le paradis, bien que toute l'atmosphère est paradisiaque, mais nous voyons ce fleuve qui vient du trône. Le fleuve sort du trône. C'est très démonstratif. Un fleuve qui vient du trône. C'est pas physique, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est quelque chose de symbolique qui a une valeur symbolique très forte. C'est une image si merveilleuse. Comment on voit comment Dieu règne? Comment Dieu règne-t-il? Comment règne-t-il dans l'Église? Comment règne-t-il dans nos vies? Dans le fait qu'il nous donne son approvisionnement. Et ça nous amène toujours plus sous sa gouvernance, sous sa domination. Tu es toujours plus volontaire de faire sa volonté. Même tes choses personnelles, tu peux les laisser tomber. Et tu peux faire confiance à Dieu de plus en plus. Là, il y a le trône, il y a son règne. Dieu règne. Et ce fleuve sort du trône. Et on voit aussi ce fleuve dans Ézéchiel 47, dans un aspect différent, où on a une description du temple. Et d'un côté, à l'autel, il y a de l'eau qui coule de l'autel. Peu au départ, peu d'eau. Ézéchiel 47, c'est merveilleux de voir Ézéchiel 47. Verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesure. Toujours 1000 coudées. C'est une mesure divine. Pensez-y. Dieu veut aussi te mesurer. Mais il nous amène à un tel point que nous ne pouvons plus marcher par nous-mêmes, mais nous devons nager. Si le torrent est si haut que nous devons nager, alors nous avons plus fond et c'est le Seigneur qui a le contrôle sur nous, par sa vie. Ne pense pas que si tu te donnes tellement au Seigneur, si tu jouis tellement de lui, pour d'autres ça a l'air très extrême. Tu es un extrémiste, mais il nous faut cette consécration. Et nous pouvons à ce moment-là expérimenter d'être plongé dans le fleuve. Une fois, j'étais à une conférence et le matin, il y avait beaucoup de bruit sur l'étage. Ma femme et moi, on était jeunes mariés à l'époque. Et dans un coin sur les chaises, il y a des jeunes frères et sœurs qui étaient assis et qui criaient. Amen. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Ensuite, il prenait des versets bibliques et il disait Amen. Et il priait avec la parole en disant Amen. Et puis ma femme, elle a dit, allez, viens, on va se mettre à côté d'eux. Et pour moi, c'était bizarre. C'est étrange. Et Paul dit, si vous parlez tous en langue et que quelqu'un qui n'a pas de connaissance, il vient parmi vous, il va dire, mais vous êtes tous fous. Si nous sommes nous, entre nous, nous pouvons vraiment jouir du Seigneur. Tu n'as pas besoin de parler une prière si longue, personne ne sera nourri par ça. Mais tu dis Seigneur Jésus, tu dis Amen, tu invoques simplement le nom du Seigneur et quelque chose commence à couler en toi. C'est comme ça. C'est bizarre, étrange. Ça contredit ma façon, mon âme. Mais ce jour-là, j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Et j'ai aussi dit Amen. Et j'ai aussi même prié un petit peu. Et j'ai dit Amen. Et j'ai réalisé, ah, le Seigneur est bon. Ça, tu ne le remarques pas tellement autrement. Tu sais que le Seigneur est bon. Il t'a aidé là. Il a fait des choses pour toi. Il t'a réconcilié avec Dieu. Mais le goûter comme le fleuve d'eau de vie, ça, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose de différent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toute notre vie, nous allons essayer d'avoir un bon comportement, de nous contrôler nous-mêmes. Nous sommes nous, et nous sommes. Je suis moi, et toi ne m'approche pas trop parce que je vois ça différemment et moi je pense autrement. Mais si nous buvons tous ce fleuve d'eau, psaume 16, alors nous avons cette joie abondante. Et toutes les choses qui te préoccupent autrement, toi, elles deviennent si insignifiantes. Si nous connaissons Christ comme notre vie, comme ce fleuve, alors toutes les autres choses vont devenir insignifiantes. Ça a déjà été mentionné hier, dans Ézéchiel, que tout ce qui vient dans ce fleuve, tout ce qui touche ce fleuve, est assaini. Nous pensons bien, nous pensons régler un problème, nous voudrions aider ici et là. Mais en général, ça n'aboutit à rien. Dans toutes les choses, spécialement dans l'Église, il s'agit de vie. Ce qui compte, c'est la vie. Et aussi, Apocalypse, que nous avons mentionné dans le résumé, vous pourrez les lire. Eh bien, il y a cet aspect que l'eau nous assainit, nous rend pure. On voit aussi dans Jean. Jean était disciple. Il a écrit aussi les épîtres parce qu'il a vécu longtemps. Et ensuite, il a écrit toute l'Apocalypse. Son héritage qu'il nous a laissé est énorme. Mais ce qu'il a accentué plus que tout, c'était la vie. L'amour, bien sûr, aussi, mais l'amour est relié très fortement à la vie. Jean nous ramène à la vie. Il a connu les commencements, il a connu Jésus. Et maintenant, il y a d'autres générations qui arrivent. Et lui, il vit toujours. Il y a des nouvelles générations, même dans l'Église. Les gens de l'Église du Nouveau Testament n'étaient pas encore là au commencement. Et donc Jean avait une mission, il avait un devoir de montrer à tous ces gens, à leur montrer les choses essentielles de la vie. Et c'est comme ça que son évangile commence. Il n'a pas mentionné d'arbre généalogique, mais il a dit non, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est tellement élémentaire et il ramène en quelques mots à Dieu. Et il dit ensuite qu'en lui était la vie. En Jésus est la vie. Et cette vie, c'est ce qui préoccupe Jean, même quand tu regardes les épîtres de Jean. Il redit ce qui était dès le commencement. Il a un fardeau de ramener les frères et sœurs au commencement. Ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons même touché de la parole de vie, et la vie est apparue, la vie a été manifestée. Il n'a pas dit Dieu a été fait chair, mais la vie est apparue. Et nous avons vu, et nous vous témoignons, et nous vous annonçons la vie qui était auprès du Père et qui maintenant est avec nous. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous ayez aussi cette joie en vous. Pour que nous puissions tous avoir part à l'arbre de la vie et que nous puissions ensemble jouir, nous réjouir de ce Seigneur qui est la vie. Ça, c'est déterminant. C'était le fardeau de Jean. La parole de vie. Ensuite, l'eau de la vie. Dans Jean 4, 14, Jésus dit, « Si tu savais qui parle avec toi, Jésus parlait à la Samaritaine. Si tu savais, alors tu demanderais toi-même de l'eau à boire. Et moi, je te donne de la vie, de l'eau de la vie, de l'eau vivante. Cette eau coule jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que si tu bois de cette eau de vie, elle ne va pas rester juste comme ça. J'ai bu un jour Jésus dans ma vie, et ça, c'était le début. Mais là, il y a un puits, il y a une fontaine. Il n'y a pas juste un verre d'eau, il y a une fontaine. La fontaine peut approvisionner continuellement de l'eau. Il y a toujours de l'eau qui sort, et cette eau coule jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que c'est la même eau, c'est la même base, c'est ce même fleuve qui coule dans Apocalypse 22. Ça coule en nous tous, l'eau de la vie. Et savez-vous, les gens autour de nous, si vous avez l'occasion de prêcher l'Évangile, ils ne voudraient pas qu'on les enseigne. Ils n'ont pas besoin d'être convaincus par ta manière de voir, ce qu'ils ont besoin. Et c'est un verset qui a été cité ce matin. Mon âme a soif. Ils ont soif de Dieu. Quand tu viens, eh bien, tu réalises toute l'humanité a soif. Si toi, tu peux donner de cette eau qui est en toi, alors ça va les satisfaire, ça va les réjouir, ça va les toucher. Je ne peux pas le comprendre, mais ouais, ce que tu dis, c'est bien. Ils vont accueillir ce que tu dis, et ils vont recevoir, et ils vont obtenir quelque chose qui les nourrit, qui les abreuve, et pas quelque chose qui les enseigne et qui les convainc. La vie. Amen. Jean 4, 14, ou 4 en général, montre comment Jésus prêche l'Évangile. Ce n'était pas quelque chose pour convaincre cette Samaritaine. Il était juste là avec elle, et puis il a discuté avec elle. Et c'était très décontracté. C'était pas j'ai encore personne vu aujourd'hui, il faut vite que je trouve quelqu'un pour parler 5 minutes, peut-être que je peux donner un tract. Non, c'était simplement dans la situation qui se présentait, parce que Jésus est rempli de vie, il sait exactement ce qu'il doit dire. Si on est rempli, on sait, on aura une parole pour les autres. Amen. Et dans Jean 7, 37, comme on a lu, Jean 7, 37 à 39, c'est un passage important, et c'est important de garder ça en mémoire. parce que nous, on est souvent dans la chair et le sang. Mais ici, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'était la fête des tabernacles. C'était une grande, grande fête juive. Et le dernier jour, c'est le plus grand jour. C'est l'explosion de la fête, la conclusion, vraiment. Une grande joie. Et là, Jésus se lève et il s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tous ces jours à la fête? Ils ont bu et mangé. Mais il y a une autre soif qui n'a pas été étanchée. Si quelqu'un a soif, il ne s'agit pas d'un bon enseignement, il s'agit de la vie. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je ne suis pas un expert des langues, mais celui qui croit en moi, comme l'Écriture dit, des fleuves d'eau vive couleront. Jésus a dit, comme dit l'Écriture. Donc l'Écriture dit que l'eau coule en nous. Et nous, nous croyons ce que l'Écriture dit. Nous croyons, comme l'Écriture dit, que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. De notre corps, l'eau coulera. Quand tu ouvres ta bouche, qui appartient à ton corps, eh bien l'eau coule de là, coule de toi. Juste parce que tu as témoigné, tu as donné un témoignage, parce que tu as communiqué une grâce à quelqu'un ou que tu as répondu à une question. Là, l'eau de la vie coule. Ne pense pas que tu dois tout répondre à tout. Réponds par la vie. Jésus. Ils sont venus vers Jésus pour lui montrer cette femme adultère. Et toute une foule était là en disant « Il faut la condamner, qu'est-ce que tu fais toi? Regarde cette femme, elle est mauvaise. Qu'est-ce que tu fais ?» Jésus, il attendait, il n'a pas répondu. Il a fait silence tout d'abord. Il a laissé le tumulte. La vie peut attendre aussi un peu. La vie, c'est la vie. Attends. Écoute, regarde, qu'est-ce qui se passe? Et à l'intérieur, tu considères avec le Père. Et peut-être une fois, tu vas dessiner par terre, tu vas faire des petits dessins. Souvent, quand il y a de l'agitation, tout de suite, tu participes à l'agitation. Mais non, laisse cette agitation passer. Ralentis. Et ensuite, il a répondu d'une façon si merveilleuse. Si quelqu'un parmi vous est sans péché, eh bien, jetez la première pierre contre elle. Ça vient de la vie. La vie est la lumière des hommes. Il a dit ça dans le même chapitre. Celui qui me suit trouvera la vie, la lumière de la vie. La lumière et la vie vont aussi ensemble. On voit aussi ça dans l'Apocalypse. Ce fleuve, il est clair, limpide comme du cristal, brillant même. Il y a quelque chose qui brille, quelque chose qui émane de cette eau si transparente, si pure. Si tu es dans cette vie, tu n'as rien à cacher. Tu te réjouis simplement de cette vie. Et si tu fais une faute, tu ne dois pas non plus te cacher. Nous sommes ouverts les uns aux autres. Nous sommes comme un livre ouvert. Pourquoi? Parce que le Seigneur pardonne tous nos péchés. Je n'ai pas besoin de mettre sous le tapis mes petites poussières. J'essaye de cacher des choses. Non, soyons transparents. Le Seigneur nous lave, nous purifie. Quand nous avons de la communion, qu'est-ce qu'il écrit? Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous lave de tout péché.
Das ist durchscheinend, das Licht scheint durch.
La lumière brille. Et pour que la vie coule, peut-être tu as besoin d'être purifié. Et laisse-toi purifier. Le sang du Seigneur pourvoie. Nous pouvons nous réjouir du fleuve de vie et de l'arbre de vie sans aucune condition. Avance, le rideau, le voile a été déchiré de haut en bas. Tu peux aller à l'arbre de vie. Le chemin est ouvert. Ne nous laissons pas être distancés de cet arbre et de ce fleuve. Il n'y a aucune raison de ne pas prendre part. C'est une nourriture. Nous pouvons manger le Seigneur. Manger. On ne peut pas en rester à la théorie. Manger, c'est manger. Je peux pas dire c'est bon quand je ne mange pas. Je peux pas dire ça. Mon frigo est vide, je ne mange pas. Je ne prends rien. Ça n'ira pas longtemps. Nous devons vraiment manger régulièrement. C'est pas important de savoir combien de temps, quand, à quel moment. Il y a beaucoup de règles qu'on pourrait s'imposer, mais ce qui est important, c'est qu'on mange. Parfois, j'arrive à un passage dans l'Écriture et je suis tellement touchée par le Seigneur. Je me dis, ah, le Seigneur me parle. Ça, c'est une nourriture. J'ai besoin de digérer ça maintenant. Et aujourd'hui, je peux un peu ruminer ça, je peux manger à cette parole. Je peux le retravailler et je peux parler au Seigneur et lui me parle. Et peut-être que ça va même te suivre pendant un certain temps durant la journée et ça va être intériorisé. C'est une nourriture qui reste. C'est une nourriture qui va persister en toi. Même si beaucoup n'ont pas compris ce que Dieu dit, le Seigneur a dit « Mangez-moi ». Ils n'ont pas compris, mais ils l'ont vécu en réalité comme Pierre. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont partis, les disciples se sont éloignés. Et puis Jésus a dit aux disciples « Mais vous ne voulez pas, vous en allez aussi ?» Puis Pierre a dit « Mais à qui irions-nous ? Où est-ce qu'on irait ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais alors Pierre, tu n'as même pas compris ce que Jésus disait. Mais tu ne peux pas t'éloigner non plus. Tu as goûté quelque chose. Tu as goûté la vie. Tu ne comprends pas tout. Jésus les a vraiment offensés en disant « Buvez mon sang et mangez ma chair. » C'est tellement fort cette parole. Beaucoup sont partis. Mais quelques-uns sont restés. Mais et vous, vous voulez pas aussi partir? Allez! Non, nous ne partons pas. Parce que nous avons goûté que tu as les paroles de la vie éternelle. Ça va porter notre vie. Aussi pour l'avenir. Restons attachés à la vie. Ne soyons pas conduits par des choses secondaires, des pratiques diverses. Aujourd'hui, tu peux aussi politiquement t'impliquer. Il y a tant de choses qui arrivent dans l'Église qui deviennent un thème de discussion. Non, nous devons prendre garde. Nous nous centrons sur la vie. Louez le Seigneur, c'est très important. La vie, c'est tout ce qui compte. Amen. C'est notre réalité. Ce n'est pas juste une parole vide. Et quand Jésus est ressuscité, comme nous voyons aussi dans Jean 7, 38 et 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ensuite, il explique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit cela de l'Esprit, en fait, celui qui a écrit le livre explique. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jean a ajouté ces paroles. Et Jean a déjà vu et vécu ça. Il était là. Il était là. À la Pentecôte, il était présent. Quand il a été rempli de l'Esprit, quand le fleuve d'eau de vie est entré en eux tous, quand des hommes ont été sauvés partout, dans toute la région, que cette parole s'est répandue, eh bien, ce fleuve les a atteints et les a rendus saints, les a purifiés. Il l'a dit, il dit cela de l'Esprit. L'Esprit n'était pas encore. Même les théologiens, là, se disputent. L'Esprit n'était pas encore. Jésus n'était pas encore glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'Esprit devait d'abord devenir l'Esprit comme il est aujourd'hui. Bien sûr qu'il a toujours existé. Le Saint-Esprit a toujours été là. Mais le Saint-Esprit a été, au travers de la vie de Jésus, de son incarnation, de sa mort, de sa résurrection et de son élévation, l'Esprit est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu pouvait déverser en toute chair. C'est le Saint-Esprit qui a suivi tout ce processus. Jésus est devenu homme. Ensuite, il a vécu sur la terre. Tout ça est inclus dans l'Esprit aujourd'hui. Cette essence humaine de Jésus est dans l'Esprit aujourd'hui. L'humanité de Jésus est dans l'Esprit. Quel homme était-il? On peut le voir dans les chrétiens qui suivent Jésus, de ceux qui le connaissent, qui le suivent. Ensuite, dans cet esprit, il y a aussi la mort que Jésus a soufferte. Pas seulement la mort pour le rachat. Le Seigneur a porté tout notre vieil homme, notre vieille vie. Il a tout porté sur cette croix. Ensuite, il est monté en ascension. Il est ressuscité et il est monté en ascension jusqu'au trône. Il est aujourd'hui sur le trône. Nous l'avons lu dans Apocalypse. Il est sur le trône. Et nous voyons aussi dans Apocalypse 22, il y a ce trône. Christ est sur le trône. Dieu et l'agneau sont sur le trône. Et ensemble, ils sont... Tout ça est inclus, je veux dire, dans le Saint-Esprit. Et Dieu a répandu cet esprit en tous ceux qui étaient là. En tous ceux qui sont là et qui entendent. Pierre a dit ça. Tu entends l'évangile dans ta langue, dans ta propre langue. Il y avait des pêcheurs qui ne savaient pas le grec, qui ne savaient pas le phénicien, toutes ces langues diverses. Et ils ont prêché l'évangile dans diverses langues. C'est l'esprit qui était en eux. Ils ont parlé en langue. Ils parlaient d'autres langues. Et ils ont répandu l'évangile à tout ce peuple qui était là, de diverses régions et de diverses langues. Il a envoyé l'Esprit, il a envoyé le Consolateur. Quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur. Le Seigneur a parlé pour nous et il nous aide. Il nous conduit. Bien sûr, cet Esprit n'est pas séparé de Jésus. Nous pouvons le voir tout à fait clairement dans la parole. Un verset particulièrement le montre dans 1 Corinthiens 15, 45. Ce verset très important, 1 Corinthiens 15, 45. Il est dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'était une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie, on peut dire. Là aussi, il y a l'accent sur la vie. Le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a emporté toute la population adamique. Il est donc le dernier Adam. Si tu es aujourd'hui dans Adam, si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas actuel, tu n'es pas d'aujourd'hui. Où sommes-nous aujourd'hui? En Christ. Nous sommes en Christ. Comme on a aussi entendu hier, si nous croyons et que nous sommes baptisés, nous sommes en Christ. Nous avons revêtu Christ. C'est un nouvel homme, une nouvelle humanité et une nouvelle personnalité. C'est un nouvel homme, comme dit la Bible. Et tout cela par l'Esprit. Jésus n'est pas seulement celui qui envoie l'Esprit, mais il vient lui-même avec. Il a dit, je vous envoie le Consolateur, un autre Consolateur. Et puis il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Qu'est-ce que c'est? Je vous envoie un Consolateur, donc je m'en vais et je vous envoie un Consolateur. Et ensuite il dit, je viens moi-même. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et que dit-il en plus? Et je ferai ma demeure en toi, auprès de toi. Dieu fait sa demeure parmi nous. Et ce n'est pas seulement pour le ciel. Beaucoup de chrétiens pensent que dans le ciel, il y aura une demeure. Et quelque part dans ce ciel, il y a un fleuve. Et quelque part dans ce ciel aussi, il y a un arbre de vie. Et puis une rue en or. Non. Mais c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui expérimenter. Il y aura beaucoup de surprises plus tard si nous ne faisons pas ça aujourd'hui. Si nous ne recevons pas aujourd'hui cette eau, cette vie, cette expérience, elle est dans Apocalypse comme un accomplissement de toutes choses. Mais aujourd'hui, nous pouvons vivre dans cette réalité. Sous le trône, sur une rue, une route en or, as-tu déjà considéré qu'est-ce que c'est la rue en or? Et des deux côtés de la rue, des deux côtés du fleuve, il y a un arbre de vie. Il est à gauche ou à droite? À gauche et à droite, un arbre de vie. Qu'est-ce que c'est? Combien d'arbres? Combien de fruits? Ne te préoccupe pas tellement. Il a 12 fruits. Est-ce que c'est 12 différents? Est-ce que c'est un même fruit? Il y a des frères qui disent « Ah, ben c'est tant de tons différents. » Bien sûr, on peut trouver 12 choses. Et chaque mois, il porte du fruit. C'est merveilleux. Nous nous nourrissons de cet arbre jusque dans l'éternité. Et les nations seront aussi encore là. Et pourquoi elles seront là? Que font-elles là? Eh bien, ils vont pouvoir se nourrir des feuilles. Ils vont pouvoir aussi avoir quelque chose à manger. C'est des feuilles qui vont les guérir. Toute l'humanité a besoin de cette médecine, de ce médicament. On aura ce fleuve d'eau de vie, on aura cet arbre de vie. Et les feuilles vont guérir les nations. Et nous sommes un avec ce Dieu-là. Le Seigneur est devenu l'Esprit qui donne la vie. C'est le Seigneur, ce n'est pas juste l'Esprit. Séparé de Jésus, c'est le Seigneur Esprit. Comme on peut lire dans 2 Corinthiens 3, nous tous qui contemplons le Seigneur et qui le reflétons, le Seigneur est invisible, mais dans notre cœur, il est là. Et nous pouvons goûter, nous pouvons voir la gloire du Seigneur. Avec le visage découvert. Parfois, je regardais un frère et j'ai vu déjà la gloire en lui, même qu'on n'a rien dit du tout. Il y a la gloire de Dieu dans les frères et sœurs. Personne, pas tout le monde peut voir ces choses, mais nous pouvons avec... avec, si nous portons de l'attention, nous pouvons le voir, le réaliser. N'essayons pas de comprendre, mais juste réjouissons-nous de cela. Parfois, tu ne peux pas arrêter de lire. Il y en a qui aiment bien lire et qui lisent un livre après l'autre. Mais ce livre, cette Bible, je la lis depuis si longtemps et je ne m'en lasse pas. Parfois, j'ai peur d'ouvrir ce livre parce que ça me saisit tellement que j'ai de nouveau quelque chose à découvrir, quelque chose que le Seigneur me montre. Mon cœur se réjouit du Seigneur. C'est magnifique de voir le Seigneur dans ce livre. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur est l'Esprit, c'est très clair. Ce n'est pas l'Esprit qu'il envoie, c'est l'Esprit qui vient avec Jésus. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que j'ai mentionné ce verset? Oh Seigneur, Amen. Dans Colossiens 1:26-28. Nous sommes vivants. Donc Jésus est venu avec l'Esprit en nous, et donc le Dieu vivant est venu en nous. Le Père, le Fils et l'Esprit, un, ensemble. Il est en nous. Et nous devons encore voir une chose. Nous devons voir que cet esprit. Nous devons voir cet esprit tel qu'il est dans Galates 2, 20, par exemple. 19 déjà. C'est écrit dans un contexte parce que les Galates étaient très versés dans la loi. Ils pensaient devoir accomplir la loi. Et Paul a dû écrire de façon très précise ce qui concernait cette pratique de chercher à accomplir la loi. Il a voulu leur dire que c'est par la vie que tout est produit. Je suis mort à la loi. Galates 2, 19. Afin de vivre pour Dieu, ou de vivre Dieu directement. Quand Jésus était à la croix, il a été l'agneau de Dieu qui a souffert, qui a saigné, et il a crucifié aussi toute la loi, toutes les exigences de la loi. Pour quel but? Juste pour que tu sois libre et que tu n'aies plus de loi? Non. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui est écrit pour les croyants. Il dit au verset 20, « Je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce qui est nouveau, c'est que Jésus, Christ, vit en moi. Et il dit même, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Cette personne qu'il connaît et qu'il veut connaître encore plus. Cette personne est en lui et il veut maintenant vivre au travers de lui. Et on peut lire Colossiens 1, 26, un passage très important aussi. Il est question d'un mystère. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas seulement l'Esprit en vous, ou l'Esprit sur vous, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Paul se bat pour qu'on connaisse ce Christ, pour qu'on l'expérimente. qu'on puisse connaître ce Christ comme notre personne. Christ en nous, c'est ce mystère. Un jour, ce sera révélé. Nous serons révélés entièrement avec Christ. Aujourd'hui, c'est encore un mystère pour les gens autour de nous. Mais nous connaissons le Seigneur. Et soyons déjà éclairés par rapport à ce mystère. Philippiens 1, 21. Philippiens 1, 21, Paul dit, au travers de toutes ces difficultés qu'il a vécues, nous avons tous des difficultés, des problèmes. Nous sommes entourés de choses difficiles, mais Paul dit ici, car Christ est ma vie. Alors je peux passer à travers cette situation. J'ai été prisonnier, j'ai été battu, j'ai eu telle et telle difficulté, mais pour moi, vivre, c'est Christ. La vie, pour moi, c'est Christ. C'est difficile de l'exprimer de la bonne manière, mais vivre, vivre, comment je vis? Pour moi, vivre, comment je marche? Qu'est-ce que je traverse? Eh bien, dans toutes ces choses, Christ est ma vie. Et même si je meurs, c'est un gain. C'est un gain pour moi. Et acte 11. Non, restons dans Philippiens 3. Paul a reconnu le Seigneur et à partir de ce moment-là, il a laissé toute chose de côté. Tout ce qu'il avait fait par le passé, il ne l'a pas seulement remis en question, mais il l'a rejeté comme étant des ordures, des déchets. Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et il voudrait être trouvé en lui. Donc Philippiens 3, versets 8 et 9. Je voulais être trouvé en lui afin de le connaître lui. Mais il le connaît déjà. C'était une révélation énorme quand il l'a rencontré. Et là il dit, je veux le connaître. Donc il dit qu'il ne le connaît pas encore assez. Paul était concentré sur l'aspect de connaître Christ. Il voulait être trouvé en Christ. Quand il écrivait des lettres, il voulait que le Seigneur guide sa main pour qu'il écrive ce que le Seigneur voulait lui-même écrire. Il était tellement un avec le Seigneur. C'est une telle attitude merveilleuse. Et ça nous garde aussi auprès du Seigneur. Seigneur, je vais te trouver en toi. Si tu as cette attitude le matin, Seigneur, je vais te trouver en toi. Aujourd'hui, je veux encore plus te connaître aujourd'hui. Je veux te gagner. Il est aussi écrit, le gagner. C'est une attitude si merveilleuse que nous pouvons avoir chaque jour. Et dans Actes 11, 18, on peut lire. Quand les frères étaient à Jérusalem, ils ont réalisé que Paul avait baptisé des païens. C'était un scandale que Paul allait vers des païens chez des Italiens et qu'il soit même baptisé. Mais qu'est-ce que tu as fait ça? Ah non, Pierre, c'est Pierre qui allait. Et il a dû rendre compte aux anciens de Jérusalem. Et Pierre leur a dit, mais ils sont devenus croyants au Seigneur Jésus. Et comment pouvais-je empêcher qu'ils soient baptisés? Quand ils ont entendu ça, Ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu. Donc ça, c'est le verset 18. En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. La repentance va conduire à la vie. La repentance conduit à la vie. C'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Parfois, on fait quelque chose qui nous embête ensuite, qui nous a mis dans une situation inconfortable. Tu vas porter ça avec toi un certain temps, mais à un moment donné, tu vas te repentir. Et comme tu veux continuer de jouir de l'arbre de la vie et du fleuve, alors tu te repens, tu te tournes et tu as de nouveau part à l'arbre de vie. Tu reviens vers le Seigneur. Peut-être les derniers mois, les dernières années, les choses se sont accumulées. Nous savons, nous réalisons que les choses n'ont pas été très correctes. Ça m'a endommagé, mais nous pouvons vraiment nous en dégager. Seigneur, pardonne-moi, guéris-moi et ramène-moi au fleuve d'eau de la vie. Nous avons besoin de nous repentir. Les premières œuvres, pratiquons-les. Ils ont brûlé les livres à l'époque, là, dans leur repentance. Ils se sont débarrassés de tout ce qui était un poids ou pêcheur ou quoi que ce soit qui les a empêchés de venir au fleuve d'eau de la vie et au premier amour pour le Seigneur. Ayant une telle vie qui est prête dans chaque situation de se tourner. Louez le Seigneur et vivons le Seigneur. Christ vit aujourd'hui en nous par l'Esprit. Écoutons-le. Il est la vie. Amen. Cette vie est une personne. C'est pas juste une chose. C'est pas juste que je suis vivant. Mais c'est une personne avec laquelle j'ai une relation, qui a des sentiments, qui a des choses à dire et à laquelle nous devons vraiment prêter attention. Amen.